Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'heure de notre entretien littéraire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la romancière Sladiana Nina Perković pour son premier roman intitulé « Dans le fossé » qui paraît aux éditions Zulma. Roman traduit, je cite, du serbo-croate par l'extraordinaire Chloé Billon. Bonjour Sladiana Nina Perković.
Bonjour.
Sladiana Nina Perković, il nous faut retracer un peu votre parcours. Vous êtes née dans un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie, à Banja Luka, qui deviendra la capitale de facto de la République serbe de Bosnie. Puis vous êtes devenue journaliste, vous avez travaillé pour des médias francophones et ex-yougoslaves. Est-ce que la littérature, et plus précisément le roman, avait toujours fait partie de votre paysage ?
Honnêtement, non. Je suis journaliste, je voulais être journaliste depuis toujours. J'en rêvais de voyager, de parcourir le monde, de faire des reportages qui me restaient comme ça mémorables. Et ça ne s'est pas passé comme ça dans la vie. J'ai fait des reportages tout simples et je fais de tout en tant que correspondante pour les médias en ex-Yougoslavie. Et en France, surtout, j'ai travaillé en tant qu'une journaliste spécialisée pour la Bosnie-Herzégovine, pour l'ex-Yougoslavie. Vous savez comment ça marche, c'est normal, c'était ma spécialité. Et au final, quand je suis débarquée à Paris, il y avait aussi une énorme solitude, j'ai dit comme ça. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là, à les moments où j'étais toute seule dans un café. Vous savez, dans les Balkans, c'est inimaginable. On ne peut pas aller dans un bar et boire un café tout seul comme ça et lire un livre. Il y a toujours quelqu'un qui va vous inviter à s'asseoir. On est toujours entouré des gens. Et ici, à Paris, ce n'était pas le cas. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi-même. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Et la chose qui est assez drôle, j'ai commencé à écrire en français. J'ai rêvé d'être une écrivaine française, riche et célèbre. Mais malheureusement, mon français n'est pas... Il ne faut pas juste connaître la langue, c'est-à-dire la grammaire, les règles, mais il faut aussi rêver d'une langue, connaître par cœur, connaître que ça fait part de nous-mêmes. Et j'ai arrêté, en fait, je me suis dit, ok, tu ne vas pas être célèbre ni riche, mais tu vas écrire dans ta langue maternelle que tu connais très bien.
Et c'est là que commence directement l'histoire de l'écriture de Dans le fossé, où il y a quand même des, disons, des essais antérieurs.
Oui, exactement. Mon personnage principal, c'est une fille, donc on ne connaît pas de prénom. On ne dit pas que c'est moi, mais je le sens comme ça. Elle se demande beaucoup, en fait, par rapport à sa vie, qu'est-ce qu'elle va devenir, comment ça va finir. C'est exactement ça.
Alors, l'action de Dans le fossé se déroule en Bosnie, et même la première image qu'on en a, c'est celle d'une jeune femme, une petite fille presque, entre les deux, au moment des accords de paix en 1995, cachée derrière son canapé parce que le voisin tire en l'air pour fêter la fin de la guerre. Il y a dans cette image une forme de métaphore de l'histoire récente de la démesure bosnienne qui est assez magnifique, c'est-à-dire il faut se cacher quand même des balles, même de la paix.
Oui, exactement, mais c'est ça en fait, c'est la Bosnie. Et on a tous cru que c'est la fin, que finalement on va y vivre, que la vie va revenir, qu'on va retrouver la paix, mais aussi la liberté et tout. Et ça, c'est pas passé comme prévu. On a resté derrière nos canapés, on n'a jamais sorti en fait, même c'était encore pire. Et c'est ça exactement dont je voulais décrire. Il y avait une guerre, tout le monde a parlé de nous. La Bosnie, c'était la numéro un de tous les médias partout dans le monde. La guerre était finie et nous, on est resté là. Voilà, il n'y a plus Kalachnikov, mais on a resté quand même dans un monde qui n'a pas réussi à se reconstruire.
Alors, dans le fossé, on sait qu'on est en Bosnie, on sait qu'on est du côté serbe de la Bosnie, orthodoxe, puisqu'on voit les rituels orthodoxes, on reconnaît les prénoms, mais les villages n'ont pas de nom non plus. On ne sait pas, on reconnaît juste le relief qui ressemble, comme vous dites, à une barre de Toblerone où on passe de colline en colline, mais ça pourrait être presque n'importe quel village de Bosnie, de République serbe de Bosnie.
Moi, je viens d'une famille mixte, donc je connais les deux mondes. Mes grands-parents, en fait, ils étaient des partisans, des combattants de Tito, des résistants. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient cette rêve de reconstruire un nouvel homme qui n'a pas de religion, qui n'a pas de famille derrière lui. Donc ma grand-mère, elle est orthodoxe d'origine et mon grand-père, il est musulman. Mais tous les deux, ils étaient athées, convaincus, communistes. Donc, je connais deux mondes, en fait, même trois, même cette côté athée où tout le monde essaye de construire cette nouvelle homme. Mais aussi, je connais très bien les deux, et même des musulmans, les rites des musulmans et les rites des orthodoxes. Mais c'était un choix. J'ai dit, je dois choisir qui représenter dans l'histoire pour ne pas partir loin. Et je me suis dit, ça peut être n'importe quelle famille, ça peut être n'importe quel village, n'importe où en Bosnie. Voilà, les noms, on les change, on change les rites et on va avoir la même histoire.
Ah oui, vous croyez? Parce que c'est quand même pas n'importe quelle histoire, hein, c'est pas rien. Vous pensez que justement ça pourrait se produire à peu près n'importe où en Bosnie?
N'importe où, honnêtement, en Bosnie, il faut pas avoir beaucoup de dons d'imagination. Honnêtement, je trouve qu'il faut juste écouter les gens, être présent et écouter. Voilà, vraiment regarder ce qui se passe autour de nous. Et on va trouver des histoires tellement incroyables. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas inventer ces histoires-là. C'est impossible, on ne les invente pas.
Pourtant, vous dites dans le prologue, vous dites que tout s'est inventé et que tout est sorti de votre imagination.
J'étais obligée.
Alors la narratrice, on va la présenter, elle habite chez ses parents, ça fait 3 ans qu'elle n'a aucune envie de quoi que ce soit, à part rester au lit et regarder des séries policières. Son copain est en Australie, elle n'a plus trop de nouvelles et elle végète un peu dans son canapé.
Exactement, elle est très déçue par la vie. Son compas, il est parti, il lui promet qu'il va envoyer des papiers, des documents, comme ça elle peut venir le rejoindre en Australie. Et ça s'est jamais produit. Donc elle voit sur Facebook que lui, il a reconstruit sa vie. Il est loin d'elle. Il a oublié. Elle fait des études de littérature. Donc elle est consciente qu'elle va jamais trouver de travail. Elle a dit, le monde n'a pas besoin de moi. Ce qui est vrai, en Bosnie, si vous n'avez pas d'argent, et souvent de l'argent sale, on parle de ça, si vos parents ne connaissent pas des gens qu'il faut connaître, si vous n'êtes pas dans un parti politique, ben vous n'avez pas de place dans ce pays. Donc elle est consciente de ça. On est très déçus. Partout, elle choisit, au lieu de dire non et de changer sa vie, elle décide de juste rester chez elle, de ne rien faire et de vivre chez ses parents. Et grâce à ses parents, et notamment à sa mère, c'est l'argent de sa mère en fait, elle vit grâce à sa mère, tout simplement.
Oui, on va voir que dans la famille, c'est vraiment la mère qui tient cette famille, qui prend les décisions à tort ou à raison, alors que le père, lui, c'est plutôt un vaincu, quelqu'un qui a subi cette défaite.
Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai une copine qui m'a dit une fois, son père, par exemple, il a fait la guerre et le jour où la guerre était finie, son père n'avait plus de travail. L'usine où il travaillait était fermée. Donc son père, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de trouver un autre travail, de reconstruire sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à la maison et tous les jours il dit, j'avais 42 ans où la guerre a commencé, où ma vie était détruite, la vie s'arrêtait, etc. Sauf que la vie ne s'est pas arrêtée, donc il avait des enfants qu'il fallait nourrir, envoyer à l'école. Voilà, la vie continue, la vie ne s'arrête pas comme ça. Donc c'est sa mère qui a pris ce rôle de nourrir tout le monde, d'assurer en fait le quotidien. Et à partir de cette histoire, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, c'est exactement ça dont je vais mettre dans mon livre. Parce que c'est ça la Bosnie aussi. Et je trouve que la place de la femme est très importante.
Elle est très importante parce que c'est elle qui va aller de l'avant, c'est elle justement qui va prendre des décisions, essayer de faire avancer la maison, même d'essayer de trouver quelque chose à faire pour sa fille, comme notamment l'envoyer dans un village à l'enterrement d'une tante qui vient de s'étouffer en mangeant un morceau de poulet.
Exactement. On se dit toujours, je me dis, pourquoi elle dit pas non, mon personnage? Pourquoi elle dit pas, je ne veux pas y aller, ça m'intéresse pas? Mais en fait, elle peut pas le dire à sa mère. Et sa mère, elle rêve d'avoir la vie meilleure, contrairement à sa fille. Qui aussi, en fait, la Bosnie d'aujourd'hui, il y avait des jeunes générations qui ont beaucoup moins d'envie d'avancer que l'ancienne génération. Et voilà, c'est une sorte de paradoxe que je voulais montrer.
La narratrice, elle est complètement résignée. On a l'impression qu'il peut lui arriver n'importe quoi. Il faut que ses besoins très quotidiens et très concrets soient satisfaits. Et puis, tout va bien.
Mais vous savez, c'est mon anti-héros aussi. Je le trouve pas sympathique. Elle a pas trop d'empathie. Elle a juste envie de rentrer chez elle, de regarder la télé. Donc, tout ce qui se passe autour d'elle, ça le touche pas trop. Je trouve qu'elle est, maintenant quand je réfléchis, elle est pire que les autres. Les autres, ils ont au moins une ambition. Vous savez, ils ont envie, ils sont en train de garder en vie un cousin, pas parce qu'ils l'aiment ou parce qu'ils ont envie de sauver, mais ils se sont dit...
Oui, on va y venir, on va y venir. Pour le moment, la tante Stana vient de mourir en s'étouffant avec un morceau de poulet. Alors, c'est assez gore, parce qu'elle a essayé donc, de se débarrasser de ce morceau de poulet dans sa gorge et elle a réussi à s'arracher le larynx avec les ongles. Elle en est morte, néanmoins. Et donc, il faut l'enterrer. Et c'est là le déclencheur de tout le récit, puisqu'on va découvrir donc la famille, pas lointaine, mais en tout cas éloignée dans l'espace, puisqu'il faut rejoindre le lieu de l'enterrement, le village, et on va découvrir un peu tout ce petit monde autour de l'enterrement de la tante Stana.
Mon idée, c'était de décrire la Bosnie d'aujourd'hui, un pays où il y avait un monde de post-apocalypse. Voilà, c'est exactement ça, c'était mon idée d'où je suis partie. Et pour moi, c'était ça, où la famille n'a plus de rôle qu'elle avait avant, c'est-à-dire de protéger l'individu, où un petit peu chacun est pour soi. Donc on a vécu un moment terrible dans nos vies et on pense que l'argent va nous sauver. Et c'est pour ça qu'on essaye de vendre la maison, voilà, la maison qui appartient à la famille. Et tout le monde pense qu'avec un petit peu d'argent, qu'ils vont s'en sortir. Et c'est pas toujours le cas.
Et donc, la narratrice va être propulsée comme ça par sa mère, envoyée en représentation à l'enterrement de la tante Stana, surtout parce qu'il sera question d'un héritage et qu'il faut absolument être là pour savoir ce que les autres vont bien vouloir dire de cette terre et de cette maison et de sa vente. Et alors, comme elle n'a pas de voiture, c'est ce fameux cousin Stoyan qui l'emmène. Et alors là, c'est un personnage absolument incroyable. On le voit arriver là au volant de sa Golf, qui est un peu son, oui, presque un objet qu'il adore, qu'il chérit, cette voiture. Et grâce à lui, on va découvrir énormément de réalités très viriles et masculines de la Bosnie d'aujourd'hui. Ce cousin Stoyan sur le chemin de l'enterrement.
J'ai parti de l'idée, je voulais faire un road trip. Absolument. En fait, je rêvais de ça. J'adore les road trips. Dans les livres ou dans les films, mais quand on parle d'un road trip, on voit tout de suite les États-Unis. On voit des routes magnifiques, mythiques, la route 66. On voit des voitures, des belles voitures, les décapotables. On voit des gens qui passent de New York à Los Angeles. Et en Bosnie, c'est pas le cas. Déjà, vous pouvez traverser le pays en une seule journée. Et on a des golfs tout déglingués. On adore les voitures allemandes. Ça, c'est notre péché mignon. On l'adore vraiment. Et en Bosnie, souvent, si on fait un road trip, on finit dans le fossé. Donc, c'était ça l'idée d'où je suis partie. Et voilà, je suis arrivée dans le fossé.
Mais alors, le cousin Stoyan, ce qu'il va nous montrer immédiatement, c'est déjà, un, la corruption. Parce que la première chose qui lui arrive, c'est qu'il se fait arrêter par un policier parce qu'il roule trop vite. Mais bien évidemment, il faut corrompre le policier pour pas payer l'amende.
Évidemment. Et on dit souvent, quand on veut corrompre quelqu'un, on dit, on n'est pas en Suède, on n'est pas dans les pays scandinaves, on est entre nous, on peut, voilà, chez nous, ça se passe pas comme ça, on peut corrompre. C'est normal, c'est notre culture. Et ça se passe partout, un petit billet. Mais vous savez, même moi, j'ai appris ça de ma grand-mère. Elle m'a dit, quand tu vas chez le médecin, quand tu vas quelque part, toujours apporte un petit chocolat ou quelque chose et glisse dans le poche de docteur. Et c'est normal, tout le monde le prend, même les médecins. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus le chocolat qu'on amène. On amène toujours un billet, en fait, mais ça fait partie de nous, de notre culture.
Alors, Slavina Nina Perković, il y a cette phrase de la corruption qui est « comment est-ce qu'on s'arrange ?» C'est-à-dire que la question que pose le cousin Stoyan au policier, c'est « bon, alors, comment est-ce qu'on peut s'arranger ?»
Oui, il faut jouer un petit peu. C'est pas direct, c'est un jeu entre nous aussi, entre le policier et le Stoyan, en fait. On va parler direct et demander de l'argent.
Non, mais justement, mais on a l'impression que c'est cette espèce d'arrangement qui fabrique aussi le pays. C'est-à-dire que toujours, il faut s'arranger avec la loi, il faut s'arranger avec l'autorité, il faut s'arranger avec ses voisins, avec ses cousins, avec sa famille. Il faut trouver un espèce d'arrangement général. Est-ce que cet arrangement, ça pourrait pas être justement l'un des mots de la Bosnie?
Exactement. Imaginez, vous avez un pays qui est complètement divisé. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais la pays, elle a une république dedans, une fédération, 10 cantons, un district, et tous ces petites entités, ils ont des gouvernements. Il n'y a pas l'État, l'État, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé nous-mêmes de trouver des arrangements pour que ça fonctionne, pour que la vie fonctionne. Et ça arrange tout le monde, les policiers, les gens, le cousin. Voilà, des petits arrangements comme ça au quotidien.
Alors, Slavina Nina Perković, on a l'impression, en lisant Dans le fossé, qu'on lit une comédie, mais une comédie grinçante, une comédie assez méchante, finalement, sur cette Bosnie.
Quand j'ai fini, en fait, le manuscrit, il y a 5 ans de ça, je l'ai envoyé à mon éditeur en Bosnie. Et au bout de quelques jours, il m'a appelé pour me dire qu'il a bien rigolé. Et vous savez, c'est pas ça ce que je cherchais, je voulais. Et ça m'a surpris, parce que pour moi, j'ai écrit, comme j'ai dit, j'ai écrit un monde post-apocalypse. Et là, tout le monde rigole. Et j'ai réfléchi beaucoup après à ça. Et je pense que surtout, je ne cherchais pas en fait, de faire rire aux gens, mais que je l'ai fait par me protéger moi-même. de pathos, mais aussi parce que si je commence à parler de tout ce qui ne marche pas, de toutes ces choses qui sont tellement tristes et horribles, je ne vais pas m'en sortir.
Mais l'humour vient justement de quelque chose d'assez, à la fois assez cru, assez réaliste, mais justement, comme il est vu par les yeux de cette narratrice pour qui à peu près tout est absolument égal et qui, elle, n'a aucun pathos, du coup, ça nous fait rire parce qu'il y a cette distance quand même.
Et vous savez, les gens en Bosnie, ils aiment bien faire des blagues. C'est un humour très british, en fait, ce qu'on a, mais que nous protège de tout, dont on rit beaucoup de nous-mêmes.
Et donc la narratrice arrive dans le village où doit avoir lieu l'enterrement de la tante Stana. Et donc là, elle retrouve non seulement le cousin qui l'a amené, bien sûr, mais aussi ses autres oncles et tantes et cousins qui fabriquent une espèce de société un peu en miniature dans laquelle, alors, il y a ce qu'on va appeler le pop et la popesse. Bon, il y a un vrai pop aussi pour l'enterrement. Et puis, il y a ses oncles et tantes. Et on voit un peu les réactions de tous ces personnages, non seulement à la mort, au décès de cette tante Stana, mais aussi au rituel de l'enterrement lui-même, et puis à ce qu'ils imaginent qui peut se produire dans l'avenir, c'est-à-dire cet enrichissement lié à la vente des propriétés de tante Stana.
Exactement, c'est la société de Bosnie retrouvée, en fait, dans un petit village. La famille, c'est la Bosnie, c'est un petit échantillon, en fait, que j'ai imaginé. Et tout le monde a son rôle, même dans l'enterrement. Et tout le monde veut son part de gâteau. C'est ça l'idée. Et chacun pense que l'autre personne va contourner des règles, qu'il va avoir plus d'argent. Et ils ont tous peur de ça. Donc ils travaillent ensemble, ils veulent vendre la maison, il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais en même temps, ils ont très peur l'un de l'autre.
En fait, on a l'impression qu'ils sont ensemble uniquement parce qu'il faut se surveiller. Sinon, ils n'auraient pas grand envie d'être l'un avec l'autre. Mais néanmoins, il faut rester ensemble parce qu'il faut être attentif à ce que l'autre pourrait faire.
Ils ne s'aiment pas, surtout. Ils ne s'aiment pas trop. Et comme la mère de ma protagoniste, de personnage principal, elle a dit que le cousin n'appelle jamais, sauf au moment où il y a quelqu'un est mort. Mais sinon, ils ne vont pas téléphoner l'un à l'autre, ils ne s'intéressent pas tellement.
Alors l'enterrement, c'est un rituel, il y a l'enterrement proprement dit, après il y a le banquet funèbre dans lequel on va manger, bon, il va se passer énormément de choses. Et puis il y a, au moment donc, de l'enterrement, cette démonstration de tristesse qui fait que l'on doit absolument essayer de se jeter dans la tombe de la tante Stana sur son cercueil. Je trouvais ça assez extraordinaire.
Il y a quelque chose de démesuré, toujours dans tout. Même dans l'enterrement. Si on pleure pas, si on montre pas, imaginez, on paye même à quelqu'un, des femmes de village, qui vont venir pleurer. Donc, elles sont pas concernées directement, en fait, c'est leur travail de venir pleurer. Comme ça, on montre à tout le monde qu'on est vraiment triste. J'appelle ça mise en scène. Ça va pas dire qu'on est triste ou qu'on est aussi triste. Mais il faut montrer aux gens ou les autres, il faut avoir des apparences envers les autres. Sinon, ça va pas.
Alors parmi ces personnages clés, il y a la tante Mileva, qui est celle qui prend en charge les fiançailles, les mariages, les célébrations du baccalauréat, qui détermine aussi le sexe des bébés, qui soigne avec les plantes, qui fait un peu de tout. C'est un peu l'organisatrice en chef des événements sociaux.
Je l'aime beaucoup, en fait. C'est une femme forte et j'aime bien décrire des femmes comme ça. J'écris aussi des nouvelles qui n'étaient pas traduites en français encore. Et j'aime bien décrire des femmes. J'ai décrit beaucoup, en fait. Mes personnages sont souvent des femmes fortes. Souvent, comme j'ai dit, des anti-héros, mais j'aime bien les femmes comme ça, qui prennent en charge tout.
Oui, bah, comme la mère de la narratrice aussi, qui prend de son côté en charge sa famille. Là, on a l'impression que bon, les hommes, en fait, il faut un peu les diriger, les occuper, leur donner des choses à faire, mais surtout pas leur laisser de responsabilité.
Comme des enfants. Mais c'est toujours comme ça, en fait. J'ai l'impression que les hommes, en Bosnie, je ne vais pas généraliser, bien évidemment, que les hommes, ils ont un rôle très marginal. Ils sont là, ils vont travailler, ramènent l'argent, mais c'est la femme qui s'occupe de tout. Elles ont beaucoup plus de responsabilités, c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui connaissent tout, qui se passe dans la maison. En fait, c'est elles qui gèrent tout. Et en plus, ils ont un travail, parce que les femmes en Bosnie, elles travaillent traditionnellement. Les femmes, elles travaillent aussi. Elle va pas rester à la maison.
Alors que l'homme, on a l'impression que lui, tout ce qu'il attend, c'est le moment où il va pouvoir aller boire tranquillement avec ses camarades, déterrer les bouteilles qu'il a cachées à droite à gauche dans la maison pour se saouler. Est-ce que ce rapport justement à l'alcool, à l'ivresse, il fait vraiment partie de ce lien social, en tout cas tel qu'on le voit dans le roman Sladiana Nina Perković?
C'est très important. On boit toujours le jour de l'enterrement, par exemple. C'est très important de boire pour le défunt, en fait. Il y a l'alcool qui est présent dans la société, évidemment. Et donc, c'est ça, je voulais montrer aussi l'effet de l'alcool aussi dans la société. On boit, on conduit sans problème. Ça gêne personne, par exemple.
Oui, alors on boit selon les générations, on boit pas la même chose. Alors, il y a la rakia qui est un peu intergénérationnelle, mais il y a aussi une espèce de nostalgie yougoslave où on retrouve du vieux cognac.
Exactement, qui date
d'autrefois.
Que les jeunes connaissent même pas, je pense, qui personne boit, sauf des gens de certain âge.
Alors justement, ce mélange des générations dans le fossé, c'est aussi ce qui donne un peu ce côté comique, parce que ils sont à la fois très unis quand il s'agit d'argent, mais on voit bien qu'ils ont des vies complètement différentes et qu'ils ont eu surtout un rapport à l'histoire complètement différent.
Et aussi, je voulais montrer, il y a un Bosnie qui est complètement résigné, qui est un peu plus déçu, et je voulais montrer aussi la Bosnie des vainqueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la Bosnie, ce ne sont pas juste des gens pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis après la guerre, la transition économique, ils ont réussi merveilleusement. Il y a des gens extrêmement riches. Je voulais montrer le personnage des Mimi qui est complètement à l'opposé de la jeune fille qui n'a pas de prénom d'ailleurs dans le livre. Et je voulais montrer elle qui se sent bien en Bosnie.
Oui, mais enfin, elle n'a pas l'air de nager dans un bonheur parfait non plus, Mimi. Elle fait rien à part être aussi sur son canapé, s'intéresser à son téléphone.
Bah oui, mais elle est jeune, elle est belle, tout le monde la regarde. Elle a une voiture déjà, elle conduit. Elle veut de l'argent pour s'en sortir aussi. Elle a des projets.
Alors dans le fossé, donc dans ce repas funèbre, on va voir la famille, il va y avoir une nouvelle tragédie à part l'enterrement de la tante, c'est que l'oncle va essayer de se pendre. Et donc ça va déclencher encore d'autres péripéties où toute cette famille là va se retrouver dehors. Finalement, on va quitter le banquet funèbre, la maison, pour raccompagner le vieil homme chez le médecin. Et ça vous permet aussi de décrire un peu à travers cette famille d'autres institutions, pour le dire ainsi, de Bosnie, Svetlana Nina Perković.
Et aussi de montrer qu'il n'y a rien qui marche. Mais ce que je voulais exactement dire, en fait, c'est que, vous savez, Radomir, il a décidé de se suicider, c'était son choix, et la famille qui s'est jamais intéressée de lui, de sa vie, maintenant ils sont tous intéressés par la façon, ils ont tous peur qu'il va se pendre dans la maison ou devant la maison, encore pire, comme ça tout le monde va le voir. Et vous savez, une maison où il y a quelqu'un qui s'est suicidé, ça se vend pas très bien.
Ah oui, c'est leur grande trouille, c'est ça.
C'est
que...
Oui, c'est ça.
Donc c'est pas tellement altruiste.
Non, absolument pas.
Ils veulent surveiller.
Voilà, ils vont pas le sauver, c'est pas ce qu'ils ont. Ils se sont dit, un jour, ils vont vendre la maison, ils vont lui donner son part de gâteau, mais après, s'il a envie de se suicider, c'est son problème. Donc ils s'intéressent pas à lui directement, ils ont juste terriblement peur qu'il va se suicider et que personne va vouloir racheter la maison. C'est tout.
Mais Svetlana Nina Perković, c'est pas que ça, parce que c'est aussi l'occasion de montrer donc l'hôpital, le commissariat, toutes ces institutions qui participent de cette satire sociale, puisque, comme vous le dites, rien ne fonctionne en réalité.
Oui, malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne. Comme on l'a déjà dit, il faut toujours s'arranger pour que ça fonctionne. Il faut toujours soit glisser un billet, soit expliquer que ça passe, et c'est comme ça que ça fonctionne, la société en général.
Alors il y a quand même des gens qui s'en sortent, on a vu, donc Mimi, mais aussi le cousin Stoyan, il s'en sort pas trop mal, bon, malgré son ex, il y a quand même un peu une espèce d'espoir, mais qui passe exclusivement par l'argent. En fait, tout le monde cherche à avoir au moins un petit capital pour pouvoir améliorer sa condition.
Et vous savez, il y a ce rêve de capitalisme. Nous, on a vécu dans une société de communisme, ils nous avaient vendu cette histoire que capitalisme va nous sauver, que l'argent va nous sauver, et que c'est ça le but. En fait, il faut qu'on y aille vers le capitalisme. On a regardé tous ces pays, regardez la France, où ça se passe bien, en Allemagne. On rêve de ça. Nous aussi, on veut porter des vêtements qui viennent de Chine, pas chers. Nous aussi, on veut avoir des belles voitures. On veut notre, comme je dis, notre part de gâteau. Et vraiment, c'est un rêve qui nous avait vendu, qu'il faut que nous, on travaille, que l'argent, elle règle tout.
Mais on a l'impression, Svetlana Nina Perković, quand on lit Dans le fossé, que ce qui tient finalement cette société avec ses différences gigantesques, c'est les traditions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où tout le monde est d'accord, il faut faire ça. Il faut avoir le banquet funèbre, il faut qu'il y ait les pleureuses, il faut qu'il y ait le pop. Là-dessus, tout le monde est d'accord, tout le monde se retrouve. Une espèce de bienséance qui tient un peu les familles ensemble en réalité.
On a des codes et on sait exactement comment ça marche, comment on sait à qui donner un billet, à quel moment. On a des codes de fonctionnement, comme la société, et on sait exactement qui a ce rôle et qui n'a pas de rôle de faire quelque chose, en fait. Donc, on est tous, je dis, n'importe où en Bosnie, c'est pas la confession qui compte. Nous sommes le même peuple, on a des mêmes idées et des mêmes codes de fonctionnement.
Alors, Slavena Ninaperkovic aussi, on aime bien parler de politique. Ça, c'est quand même aussi important dans le fossé. Les Américains, ça, c'est très important. Il faut parler des Américains, il faut parler de ce qu'il y a autour. Et finalement, la Bosnie, c'est aussi ça. C'est aussi un regard tourné vers l'extérieur, mais qui part quand même de ces endroits assez minuscules et fermés sur eux-mêmes.
On est persuadé qu'on est très important. On ne voit pas qu'on est un petit peuple, on ne se considère pas comme ça. On croit toujours qu'on a un passé merveilleux, que tout le monde compte sur nous, en fait, que tout le monde va nous prendre en compte. Donc on aime bien parler de politique, comme si ça change quelque chose, que nous on pense ceci ou cela. Donc ça aussi c'est un petit peu drôle. Mais la politique, les gens adorent. Ils font rien, les gens, en Bosnie. Il n'y a pas beaucoup de travail. Et les gens, il y a cette culture aussi de boire des cafés. On aime bien s'asseoir dans les bars à n'importe quelle heure de la journée et boire des cafés et discuter. Et on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va parler de quoi ? Donc on va parler de politique, de sport aussi. On pense qu'on connaît tout parce qu'on a beaucoup de temps en fait libre.
Oui, dans le roman, on croise le handball, le foot, voilà, autant de passions qui sont presque universelles en réalité.
Et ce livre, je l'ai écrit avant le Covid, mais maintenant on a beaucoup d'experts en épidémiologie aussi.
Alors, Slavena Ninaperkovic, la narratrice dont on ne sait pas le nom, on sent qu'elle a quand même des velléités pour être écrivaine, puisque même à un moment, elle se compare à Hemingway, dont on sent que c'est un peu son modèle.
Mais elle est consciente qu'elle n'est pas.
Oui, elle est consciente qu'elle n'est pas Hemingway. Mais néanmoins, pourquoi Hemingway ?
Vous savez, j'ai beaucoup aimé Hemingway à l'époque, quand j'étais plus jeune. C'était vraiment mon idole. Et après, 20 ans après, je relis des mêmes livres et je l'aime plus autant. Surtout, c'est difficile d'expliquer, mais toute cette histoire où il est toujours son personnage principal, c'est lui qui porte l'histoire, c'est lui qui sait toujours tout, et il y a toujours une femme qui meurt à la fin.
Oui, oui, c'est vrai, mais il a un côté quand même un peu surviril, on pourrait dire.
Exactement.
Hemingway dans ses récits, mais justement presque...
C'est tout opposé de mon personnage qui n'y est pas.
Du personnage, non, mais de ce qu'il y a autour d'elle, en revanche, ça ressemble un peu à Hemingway, ça pourrait en tout cas.
Ça pourrait être ça, voilà.
Slavena Ninaperkovic, on va pas rentrer dans les détails hilarants de la fin du récit, mais à un moment, on se retrouve dans le fossé, puisque c'est le titre du récit, dans la boue. Et on a l'impression que cette boue, c'est quand même une espèce de métaphore de ce qu'est la Bosnie aujourd'hui, et que c'est un fossé dont on a du mal à se tirer en réalité, dont on ne peut pas vraiment sortir. Est-ce que c'était ça le sens aussi du livre ?
C'est exactement ça, en fait. Se trouver dans le fossé, c'est trouver dans un pays où c'est difficile de sortir. Vous savez, j'ai connu la Bosnie après la guerre. J'étais jeune et j'avais soif de vivre, de liberté. Et vous pouvez imaginer, je me suis retrouvée dans un pays où je ne pouvais pas sortir nulle part sans visa. C'était impossible de voyager. Donc j'étais jeune et je ne pouvais pas bouger. Je pouvais à peine aller en Croatie ou en Serbie et c'est tout. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est de se retrouver quelque part sans possibilité de bouger. Et j'avais tellement peine pour cette jeune fille. À la fin, c'est un spoiler, mais j'ai décidé de glisser un petit peu de billets dans la poche pour qu'elle s'en sorte.
Merci beaucoup, Slavena Ninaperkovic, de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Le désopilant dans le fossé, traduit du serbo-croate par Chloé Billon, est paru aux éditions Zulma. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet, avec Anthony Thomasson à la technique et Aurélie Marsay à la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain, mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture ou l'application mobile de Radio France.